le temps de louange parce que je percevais que le Saint-Esprit était en train de travailler nos cœurs d'une manière incroyable. Et ce que Dieu veut, c'est justement se faire connaître encore davantage à nous et puis travailler dans nos cœurs pour nous rendre conformes à sa nature, pour nous transformer, pas de pire en pire, mais de gloire en gloire. Amen. Ça, c'est intéressant. Moi, j'aime bien ça. Et je pense que Dieu a un dessein éternel pour nos vies, c'est de nous rendre semblables quelque part à lui-même, que nous soyons, la Bible dit, l'empreinte de sa personne. Et ça, c'est vraiment étonnant, parce que nous, on sait qu'on ne peut pas y arriver par nos propres forces. Par contre, on peut concourir à joindre nos efforts pour recevoir sa vie, et à ce moment-là, il y a transformation. Et c'est étonnant. Et Dieu a vraiment envie, c'est son souhait le plus cher, que chacun d'entre nous, nous soyons habités, remplis du Saint-Esprit, remplis de sa nature, et que nous soyons vraiment des agents du royaume, des ambassadeurs, des ambassadrices, des gens de la maison de Dieu qui se répandent partout et qui... vous savez, il y a une belle image dans la Bible où il y avait cette femme qui est venue au pied de Jésus et puis elle a cassé le parfum au pied de Jésus et elle a vraiment permis, elle a répandu un parfum d'amour au pied du Seigneur et le Seigneur a dit, cette femme a embaumé mon corps par avance. Et il y a un petit verset qui dit, et le parfum remplit toute la maison. Et partout où vous êtes remplis du Saint-Esprit, il y a un parfum qui est là et qui remplit les lieux où vous êtes. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Vous le percevez peut-être pas, mais le Saint-Esprit en vous le perçoit. Et ce matin, j'aimerais aborder avec vous quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de trop entendre dans des prédications. On va parler de l'Arche de l'Alliance. Et on va parler de cette Arche de l'Alliance parce que c'est le destin, c'est le plan de Dieu, c'est d'amener sa présence non seulement auprès d'une personne, mais amener sa présence auprès de tout un peuple, auprès de toutes les nations. Et l'Arche de l'Alliance, pour certains, vous ne savez pas ce que c'est, pour d'autres, oui, eh bien, c'est un coffre qui a été, dont les mesures ont été données pour la construction à Moïse. Et que contenait cette Arche de l'Alliance? Alors, les érudits de la parole, qu'est-ce qu'elle contenait? Les tables de la loi, la manne, le bâton d'Aaron, voilà, le bâton d'Aaron, qui était un bâton d'autorité, et il avait quelque chose de particulier, ce bâton, c'était quoi?
Il fleurissait.
En une nuit, le bâton qui était posé sec, le lendemain, il y avait des branches avec des bourgeons et des amandes au bout. Ah, ça, c'était étonnant. On va parler de ces choses-là parce que c'est le plan de Dieu. Et je vous donne tout de suite un verset dans Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, les versets 3 à 5. « Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. » Le propitiatoire, c'était le couvercle de l'arche. Et on va en parler tout à l'heure. Alors, on va parler de ça en détail, parce que vous allez voir que dans l'Arche de l'Alliance, tout ce qui est mis, eh bien, ça a une destinée, ça a une volonté pour le bien de l'humanité. Les tables de la loi, c'est donc les 10 commandements. Le vase d'or contenant la manne, c'est ce pain que les Israélites ont trouvé dans le désert, au petit matin. Ils venaient cueillir la manne et ça leur servait de nourriture et ça avait un goût de gâteau au miel. Moi, j'aime bien les gâteaux au miel. Si vous voulez me faire plaisir, vous m'offrez un gâteau au miel. Voilà, ça sera ma joie. Mais maintenant, pas trop de gâteaux parce que ma femme va me dire que je prends de l'embonpoint. Voilà. Et c'était récolté pendant tout le temps où ils ont été dans le désert. Et puis le bâton d'Aaron qui avait fleuri et qui portait du fruit et des amandes, eh bien c'était un bâton d'autorité. Alors on va parler de chacun des aspects de ce contenu. Les deux tables de la loi qui sont données à Moïse, c'est pour manifester la volonté et les commandements de Dieu, non seulement à Moïse, mais pour tout le peuple. Et de la même manière que Dieu avait une volonté pour garder son peuple, il fallait qu'il lui fasse connaître ses lois. Et c'était les commandements de Dieu. Ils sont placés dans l'Arche de l'Alliance lorsque l'Éternel fait alliance avec les Hébreux au mont Horeb. Et il y a un verset qui parle de ça. C'est dans 1 Roi 8-9, je vous le lis. « Il n'y avait dans l'Arche que les deux tables de pierre que Moïse y déposa à Horeb lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. » Lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël. Et j'aime bien ça parce que la loi de Dieu, elle symbolise la volonté de Dieu qui veut faire une alliance avec son peuple. Et Dieu ne veut pas rester distant. Dieu ne veut pas rester loin de l'homme. Dieu veut faire alliance. Et il commence par faire alliance avec les Israélites. Et dans la suite des temps, il va faire alliance avec l'humanité entière au travers de Jésus. Et on va y revenir tout à l'heure dans le descriptif de cette Arche de l'Alliance. Le premier point que j'aimerais dire, c'est que les tables de la loi, c'est une destinée éternelle. Et cette destinée, c'est manifester l'alliance de Dieu avec son peuple, avec Israël et avec son peuple élargi, avec l'ensemble de l'humanité, pour ceux qui accueilleront cette loi. Et souvent, on pense à la loi de Dieu comme « tu ne feras pas ceci, c'est interdit cela », etc. Mais en fait, la loi de Dieu, c'est une loi d'amour, c'est une loi de grâce, c'est une loi qui nous pose des limites de manière à ce que nous puissions marcher dans le chemin de Dieu. Et c'est une bonne chose. Dieu ne fait pas seulement alliance avec Moïse, mais avec tout un peuple et par extension à toute l'humanité. Il prend une place comme Dieu du peuple, mais aussi comme Père. Il est celui qui va à la rencontre de ses enfants, tout comme il le faisait dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Et au psaume 103, David, il a un descriptif magnifique. Au verset 13 et 14, il dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. » Et j'aimerais vous dire, voilà, souvent on voit Dieu comme un père un peu fouettard, à cause de la loi quelque part, mais avant tout, il est un Père qui a compassion. Il est un Père qui a compassion de l'homme comme son enfant. Et ça, c'est étonnant. Et nous qui connaissons Jésus, on a ce privilège que David n'avait pas encore de pouvoir dire « Je suis un fils, je suis une fille de mon Dieu créateur. » Amen. Et j'aimerais qu'on puisse le dire encore ensemble. Et qu'on puisse se le dire les uns aux autres. Tu es un fils, tu es une fille du Dieu vivant. Amen. Alors tournez-vous vers votre voisin, vers votre voisine, et dites-lui, tu es un fils, tu es une fille du Dieu vivant. Et le Créateur du ciel et de la terre, c'est ton père, c'est ton papa. Amen. Et que vous habitiez en Calédonie, en Arménie, en France, en Algérie, en Afrique, au Congo, au Bénin, au Zaïre, n'importe où. Dieu est un Père pour vous, pourvu que vous vous approchiez de lui avec un cœur purifié. Alors, dans l'arche, il y avait les deux tables de pierre que Moïse a reçues sur le mont Horeb. Verset Deutéronome 10:5. Je retournai, je descendis de la montagne, je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, elles restèrent là comme l'Éternel me l'avait ordonné. Dieu a ordonné que les tables de la loi soient dans l'arche. Et ça, c'est quelque chose de magnifique, et vous comprendrez tout à l'heure quand on parlera du couvercle qui est le propitiatoire. Propitiatoire, ça veut dire rendre propice. La loi, elle est comme un pédagogue, un instituteur quelque part, qui va nous conduire sur un chemin qui mène à Jésus. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas en capacité d'accomplir toute la loi, c'est pas possible. Il y a un moment un ou un autre, on va dérailler. Et c'est pour cela que Jésus est venu, non pour abolir cette loi, mais pour accomplir la loi. Ce que nous, on n'a pas réussi à faire, Jésus a réussi à le faire. Et dans Matthieu 5, 17, c'est écrit, Jésus parle, il dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et pourquoi il fallait que Jésus vienne pour accomplir toute la loi ? Eh bien, c'était justement pour rendre à Dieu une pleine satisfaction de ce que tous les commandements ont été accomplis. Chose que nous, on n'arrivait pas à faire, Jésus l'a fait pour nous. Et il l'a fait à notre place. Il est venu accomplir toute la loi. Afin que quand Jésus va nous regarder au travers de Jésus, quand le Père va nous regarder au travers de Jésus, il va pouvoir dire « Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, tu es celui ou celle en qui moi je prends plaisir. » Et le cœur du Père, c'est de prendre plaisir en nous. Pourquoi ? Parce que toute la loi, toutes ces exigences ont été accomplies et elles ont été placées dans cette arche de l'Alliance qui est un endroit bien précis. Galates 3, 23, 27 nous explique un petit peu cette démarche. Et je vous lis, « Avant que la foi vînt, nous étions tous enfermés sous la garde de la loi, des commandements, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Jésus. » Afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. On voit donc que ce précieux trésor qui est contenu dans l'arche, eh bien, il nous conduit à Jésus. Rien que dans le premier commandement, Dieu y trace un dessein pour l'humanité et un plan parfait pour la réconciliation avec lui. Et ce plan, c'est « tu adoreras ton Dieu et lui seul et tu n'adoreras pas d'autres dieux ». Et qu'est-ce que ça nous parle ? Ça nous parle d'une intégrité de cœur et ça nous parle d'une relation d'amour. On n'aime pas Dieu pour ce qu'il va nous donner, mais on aime Dieu pour qui il est. Et Dieu est amour avant toute chose. Dieu est saint, Dieu est juste. Et c'est pour ça que nous qui étions rendus incapables d'accomplir la loi, eh bien Dieu a pourvu en envoyant son propre Fils, afin qu'il ne vienne pas pour abolir cette loi, mais simplement pour l'accomplir et nous permettre de rentrer dans sa présence et aller trouver un libre accès auprès du Père. Amen. Alors, ça c'est la première chose, c'est les commandements de Dieu qui sont là. Et puis la deuxième chose, c'est la manne. Moi, j'avais des petits-fils, des jumeaux, là, et quand ils étaient petits, qu'on leur donnait du pain, le pain, ils l'appelaient « mana mana ». Alors bon, on savait que quand ils disaient « mana mana », c'est qu'ils voulaient du pain. Donc, c'était leur gâteau, le « mana mana ». Et en fait, on s'est rendu compte que c'est un mot en hébreu qui veut dire « la manne ». Et la manne, ça veut dire qu'est-ce que c'est ? Parce que les Israélites, ils ont trouvé ça dans le désert, ils ont dit « mais qu'est-ce que c'est ce truc qui est dans le désert autour de nous ?» Et Dieu a instruit le peuple en disant « mais c'est la nourriture que je mets pour toi ». Et ça s'est appelé la manne. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le désert, il n'y a rien à manger. Et Dieu a pourvu pour son peuple. Il y avait quand même une population assez importante, hein, puisqu'on parle d'un million de personnes. Eh bien, Dieu a nourri son peuple pendant 40 ans, fidèlement, tous les jours, avec cette manne qui était comme une rosée qui descendait du ciel et puis qui se transformait en une petite croûte de gâteau dont le goût était comme de la coriandre et du miel. Et ça, c'était magnifique. Et pendant 40 ans, Dieu a pourvu à la nourriture pour son peuple parce qu'il ne voulait pas que son peuple meure de faim, mais qu'au contraire, son peuple puisse être dans la joie et qu'il puisse se rappeler que chaque jour, Dieu pourvoit à ses besoins. Et j'aimerais que tu le dises à ton voisin, chaque jour, Dieu a une pensée de pourvoir à tes besoins. Dites-le à ton voisin, Dieu a une pensée de pourvoir à tes besoins chaque jour. Amen. Axel, je te le dis, Dieu a la pensée de pourvoir à tes besoins chaque jour. Amen. Alléluia. La manne, elle est là comme un rendez-vous. Mais pour la récolter, il fallait sortir des tentes, aller un petit peu au-delà du camp et puis ramasser la manne. Il y avait quand même une action. Dieu, il ne faisait pas venir la manne dans ta tente, dans ton assiette, juste la bonne part qu'il fallait. Il y avait une participation. Et de la même manière, Dieu, il demande notre participation en toutes choses et en tout point pour marcher avec lui. Et ça nous rappelle le culte personnel qu'on doit avoir. Dieu nous donne un rendez-vous, non pas une fois par semaine à l'église, mais il nous donne un rendez-vous fidèlement chaque jour pour nous nourrir. Matthieu 6,6 nous dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Il y a un échange. Mais c'est nous qui allons, le Père est déjà là, il nous attend, et ce n'est pas un Père dur, c'est un Père rempli d'amour, avec un cœur aimant. Et vous savez ce que Matthieu 4,4 dit, alors là, les disciples de l'école du dimanche, que dit Matthieu 4,4 ? Amen. Donc pour ceux qui n'ont pas entendu, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quelque part, la manne, elle est venue comme le symbole de cette nourriture pour nourrir non seulement le corps physique des Hébreux, mais elle était là aussi quelque part pour leur rappeler qu'il y avait un rendez-vous que Dieu leur fixait. Et aujourd'hui, cette manne, eh bien, Dieu n'a pas voulu qu'elle soit perdue. Et avant que les Hébreux sortent du désert, Dieu a parlé à Moïse et lui a dit, eh bien, envoie collecter de la manne, mettez-la dans un vase en or et posez-la dans l'arche de l'Alliance. Ça sera comme un signe que moi, je vous donne un rendez-vous, que moi je pourvois vos besoins, que moi je prends soin de vous, que moi je vous attends, que moi je vous invite à la fête, que moi je vous invite à vous nourrir. Ça, c'est la deuxième chose qu'il y a dans cette arche de l'Alliance. Elle est la démonstration que nous devons autant prendre soin de notre corps pour nous nourrir que prendre soin de notre âme et de notre esprit pour nous alimenter. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une invitation de Dieu, un rendez-vous. Et il y a vraiment un désir de Dieu pour nous engager dans une relation. Et Dieu, il nous engage dans une relation. Il n'est pas là pour nous dominer, pour nous contrôler. Il est là pour nous aimer, pour entendre ce que nous avons à dire, pour nous conseiller, pour nous fortifier, pour nous édifier. Et il a envie de le faire chaque jour. Il y a une parole pour chaque jour. Et la manne, elle venait chaque matin. Et si tu prenais de la manne pour demain et après-demain, eh ben, ce que tu avais en trop, ça pourrissait et ça sentait mauvais. Il n'y a que le jour du Shabbat, le samedi, où le vendredi soir, ils avaient droit de cueillir pour 2 jours. Parce qu'il y a un jour qui était réservé au Seigneur. Chaque jour, il y a une parole pour nous, de la même manière. Moi, quand j'étais en Afrique, pendant 2 ans, bon, j'étais fiancé à Marie-André, on ne s'est pas vu, mais chaque jour, on s'écrivait. Alors, des fois, on ratait le jour, mais quand la poste ne marchait pas, des fois, je ne recevais pas du tout de courrier, et puis d'un seul coup, j'en recevais 3-4 lettres d'un coup. Alors là, c'était la fête. Mais je ne les lisais pas les 4 d'un coup. J'attendais chaque jour, je disais, il y a une parole de ma bien-aimée, je vais prendre le temps. Alors je prenais mon petit fauteuil, je m'asseyais, je me faisais un petit thé ou un café, je ne sais plus, un petit gâteau, etc. Je disais, vraiment, je vais prendre le temps, là, c'est ma bien-aimée. Je me mettais une petite musique douce. C'était génial, c'était le temps du rendez-vous avec la bien-aimée. Et là, je lisais la lettre et j'étais rempli de joie. Et si des fois, il me parlait de ses problèmes, de ses sujets de difficultés, alors je priais comme un fou. Je disais, Seigneur, tu l'as béni, tu l'as fortifié, tu lui fais du bien. De la même manière, Dieu, il a un rendez-vous avec toi. Et il y a sa parole qui est là, qui veut te nourrir. Et c'est une parole d'amour, c'est une parole de grâce. Il veut que tu le prennes, c'est rendez-vous d'amour. Et moi, quand je m'éloigne de mon culte personnel, souvent Dieu prend cette image, je me dis, mais rappelle-toi en Afrique, quand tu lisais la lettre de ta femme, eh bien tu prenais le temps, tu t'asseyais, tu mettais la musique, c'est tout juste si tu n'allumais pas des bougies, il faisait trop chaud, donc j'en allumais pas. D'ailleurs, j'en avais pas. Et il y a un rendez-vous avec moi maintenant, mon fils, ma fille, il y a un rendez-vous, tu dois prendre le temps d'ouvrir la parole, parce que la Bible, c'est une lettre d'amour, et cette manne, elle nous parle de tout ça. C'est la pédagogie de Dieu qui est manifestée, à nous de trouver la nourriture, à nous d'aller la chercher, d'ouvrir la Bible et de sortir pour la trouver. La troisième chose qui nous parle dans cette Arche de l'Alliance, c'est le bâton d'Aaron. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bâton ? Ben, tous les patriarches, ils avaient un bâton. Boum. Et c'est un bâton d'autorité. Et le bâton d'Aaron, il avait été mis en concurrence avec les 11 autres bâtons des chefs de tribus, des 12 tribus d'Israël, parce qu'il y avait contestation entre Moïse et Aaron, et le peuple qui disait « Nous aussi, on peut offrir du parfum à Dieu, nous aussi, on est capable de… » Et Dieu avait dit « Non, c'est Moïse et Aaron qui sont mes porte-paroles. » Et dans cette contestation, Dieu a ordonné que chaque chef de tribu pose son bâton, et Dieu avait dit « Le bâton qui fleurira sera celui que j'ai choisi comme autorité. » Et le bâton qui a fleuri, c'était le bâton d'Aaron. Et ce bâton, il représente le choix de Dieu. On ne peut pas choisir d'être un chef, mais on peut choisir d'être un serviteur. Et Aaron et Moïse, ils avaient choisi d'être serviteurs. Serviteurs du peuple. Et quelque part, ce que Dieu veut, ce ne sont pas des chefs, ce sont des serviteurs. Et quand tu commences à apprendre à être serviteur, servante, eh bien Dieu te fait grandir dans l'autorité. Quand tu apprends à être soumis toi-même à Dieu, à tes frères et sœurs, Dieu t'élève et te fait grandir dans l'autorité. Et cette autorité, elle ne se manifeste pas avec le fouet, cette autorité, elle se manifeste par du fruit. Et le bâton, incroyable, il y a des branches qui sont sorties, il y a des bourgeons et il y a des fruits qui sont arrivés. Et les bourgeons, eh bien, quelque part, ça nous indique qu'il y a un processus de maturation qui conduit aux fruits. Et ce bourgeon, c'est la foi et la persévérance. Foi et persévérance. Et pour grandir dans ce processus d'autorité, il faut avoir appris l'obéissance. C'est une étape incontournable. On ne naît pas chef, on le devient par le choix de Dieu, après avoir grandi dans sa présence, en maturité. Jésus lui-même a appris l'obéissance dans son revêtement d'homme. Et il y a un verset qui nous parle de ça dans Hébreux, au chapitre 5, les versets 5 à 10, je vous l'ai dit. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek ». C'est Jésus qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui, c'est-à-dire à Dieu, qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, ben ce Jésus, bien qu'il fût fils, a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qu'après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Voyez, Jésus lui-même a appris l'obéissance. On croit que Jésus, fils de Dieu, tout roule, tout baigne, il a souffert, il a appris l'obéissance et il a été souverainement élevé. Et pour devenir un leader ou un responsable de quelque chose, il faut avoir appris l'obéissance et la soumission au Seigneur. Avoir été avant tout serviteur, avant de vouloir être chef. Et puis, ben, tout ça, c'est des signes du bourgeon. Et puis le bourgeon, il se transforme en fruit. Et le fruit, ben, c'était des amandes. Alors si vous voulez me faire un gâteau aux amandes et au miel, je suis d'accord. Me fait de la pub, là. Eh bien, ces amandes symbolisent simplement d'entrer pleinement dans notre destinée. La destinée d'un arbre, c'est de porter du fruit. Amen. Et du bon fruit. Et la destinée d'un leader, c'est simplement de permettre aux autres de porter du fruit. Que chacun puisse comprendre ce que l'Éternel attend. Tout cela, ça nous a parlé du contenu dans l'arche. Si on avait été face à ce contenu, on n'aurait jamais pu tenir parce qu'on est incapable, vis-à-vis de la loi, de l'accomplir, incapable, vis-à-vis de la manne, de se nourrir correctement, on aurait pris beaucoup trop, incapable, vis-à-vis de l'autorité, de trouver un équilibre, parce qu'on a souvent soif de puissance. Mais Dieu, Il a donné instruction à Moïse et il a dit, mais ce coffre-là, cette arche-là où il y a toutes ces choses, il faut mettre dessus un couvercle. Et le couvercle s'appellera propitiatoire. Ça veut dire rendre propice, rendre acceptable. Et le couvercle qui est posé sur l'arche, eh bien, c'est simplement l'obéissance de Jésus. C'est simplement le sacrifice de Jésus. C'est la puissance du sang de Jésus qui nous a rachetés de nos péchés. Et il y a un petit passage que j'aimerais vous lire. C'est dans Exode 25-22. « Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi. » Du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche de témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. C'est Dieu qui parle à Moïse et qui lui dit, l'endroit où je vais te parler, l'endroit où je vais me rencontrer avec toi pour te parler face à face, eh bien, ça va être au-dessus du propitiatoire. Parce que ce propitiatoire, il me permet de te voir au travers du sacrifice de Jésus, prophétiquement pour Moïse et prophétiquement pour nous aussi. Et c'est l'endroit où la parole de Dieu a été révélée. C'était l'endroit de la révélation. Parce que ce couvercle qui représente le sacrifice de Jésus, ces anges qui sont là et qui sont au service des saints, c'était le lieu qui plaisait au Père pour se révéler. Parce qu'il voyait que la loi avait été accomplie, que la manne avait été conservée et que c'était un rendez-vous divin et que l'autorité, elle portait du fruit et elle était une autorité de serviteur vers son peuple. Et à cause de cela, le Père éternel se révélait à Moïse. Je dirais, qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans nos vies? Eh bien, c'est que nous fassions rentrer cette arche de l'Alliance dans nos cœurs. Et qu'on accepte pleinement l'arche de l'Alliance dans nos cœurs. Qu'on accepte pleinement l'autorité de la parole de Dieu sans discuter dans nos cœurs. Parce que nous qui ne pouvons pas l'accomplir, ben Jésus l'a accompli. Nous qui avons du mal à nous nourrir nous-mêmes, il y a une manne qui est là pour chacun et chacune de nous. Nous qui avons du mal à exercer l'autorité, Dieu veut nous emmener dans un processus d'autorité, de grâce, de croissance. Alors on arrive à midi, il faut que je conclue. Ce qui est étonnant, c'est que au-dessus de cette arche, il y a la nuée de l'Éternel. Et Dieu se révèle et parle à Moïse dans la nuée, au-dessus de l'arche. Eh bien, Dieu veut te parler aujourd'hui dans ton cœur, au travers de la présence de Jésus. Il veut te parler directement, il veut te dicter son amour, ses commandements, sa sagesse. Et souvent, quand tu lis un verset biblique dans ton culte personnel, eh bien, des fois, il y a un verset qui se détache, puis tu te dis, mais je ne comprends pas pourquoi, mais ce verset, j'ai l'impression que c'est pour moi. Et en fin de compte, dans la journée, quand tu repenses à ce verset biblique, tu te trouves dans une situation où précisément quelqu'un d'autre avait besoin d'entendre cette parole. Dieu t'avait armé pour libérer une flèche d'amour pour quelqu'un d'autre, ou pour toi-même, pour une guérison intérieure. Une fois, j'avais lu une généalogie, alors là, fils de, pff, la barbe, quoi. Et puis à la fin, Dieu m'a dit, c'est pas juste, Jean, c'est ma parole. Je dis, bon, d'accord, Seigneur, je prends ça comme un casse-croûte, un bon hamburger, hein, enfin, pour ceux qui aiment les hamburgers. Voilà, mais il faut qu'il soit bon quand même, hein, parce que, voilà. Et à ce moment-là, il y a une satisfaction de Dieu qui est venue dans mon cœur et qui m'a dit, voilà, tu t'es nourri, c'est parfait. Et quelque part, Dieu nous demande de la constance et de la fidélité dans notre lecture. Des fois, on veut sauter les passages qui sont un peu rasoirs, où on a l'impression que sûrement Dieu ne va jamais nous parler, mais Dieu nous nourrit et la parole de Dieu est vraiment une nourriture. Et même quand on parle de généalogie, c'est une nourriture. Et ça, c'est important de le lire. Vous savez qu'il y a des gens qui se sont convertis en lisant des généalogies comme ça dans la Bible. Il y a un gars en URSS, il persécutait les églises. Et puis il déchirait les Bibles, il les brûlait. Puis un jour, il a ramassé une page de la Bible et c'était une généalogie. Fils de, et c'était la généalogie de Jésus, fils de Dieu. Il dit, mais alors, Dieu aime la famille? Et ça a été le point de départ de sa conversion, parce qu'il s'est rendu compte que Dieu aimait la famille, Dieu aimait les hommes, donc Dieu l'aimait aussi. Vous savez, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais la parole de Dieu est vraiment, vraiment une nourriture. Il faut qu'on apprenne à s'en réjouir. Alors je conclurai sur les implications quand on fait rentrer l'Arche de l'Alliance dans son cœur. C'est faire rentrer, je dirais, l'Esprit de Dieu au-dedans de nous. Vous êtes une habitation de Dieu en esprit et en vérité, on l'a chanté. Eh bien, la nuit de l'Éternel est là. Et j'aimerais prendre ce beau passage dans Nombres 10, 33 et 36, où quand le peuple d'Israël se lève pour partir, on lit, « Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'Arche de l'Alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour chercher un lieu de repos. » Dieu va toujours vous chercher un lieu de repos, mes amis. Amen. Vous êtes fatigué, Dieu va se lever pour te trouver un lieu de repos. Amen. T'es dans la tourmente, Dieu va te trouver un lieu de repos, un hôpital spécial spirituel pour toi. Une grâce de Dieu t'attend. Et quand tu veux te lever, suis l'arche, suis l'inspiration du Saint-Esprit. Quand l'arche partait, Moïse disait, et j'aimerais qu'on le dise ça, quand nous, on s'engage dans une démarche spirituelle, on s'engage dans une journée de travail, d'études, eh bien, Moïse, il disait quelque chose, il disait, « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Et quand on la posait, quand l'arche était posée, il disait, « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. » Amen. Il y a une parole d'autorité qui est donnée à chacun d'entre nous quand nous nous engageons dans une voie spirituelle. On peut prendre autorité, on peut dire, « Seigneur, lève-toi, Éternel, au milieu de ma maison, au milieu de ma famille, au milieu de mon travail, au milieu de plein de choses, ce que vous voulez, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Et quand on se repose, qu'on a fini, « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. » C'est nous, les myriades des milliers d'Israël. Il y a une autorité, il y a une grâce qui nous accompagne. Et j'aimerais que cette grâce, eh bien, vous puissiez la méditer. Quand on a repris les cultes, on a eu un très bon message sur les habitudes. L'habitude de prendre de bonnes habitudes. Message numéro 1, Anne-Lise, Jean-Baptiste va le mettre sur le site, vous pourrez l'écouter. Après, on a eu un très bon message avec Marie-André dimanche dernier sur qu'est-ce que c'est que la foi, comment marcher dans la foi. Et aujourd'hui, je vous parle de comment concilier les habitudes, la foi et la marche. Se soumettre à la loi de Dieu qui n'est pas pénible parce qu'elle est accomplie. Se nourrir et se fortifier parce que chaque jour, il y a une manne spirituelle et une manne physique qui nous est proposée. Et marcher dans l'autorité de Dieu et faire fléchir l'ennemi qui s'oppose à nous parce que c'est l'Éternel qui marche devant nous et il nous trouve toujours un lieu de repos. À nous de faire entrer cette arche de l'Alliance dans notre cœur pour suivre ses directives, pour sortir à sa suite, pour suivre Jésus par son esprit de gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie. J'aimerais vous inviter à vous lever, à ouvrir vos Bibles, à ouvrir la Bible dans ce verset, Nombre 10. Alors je ne sais plus si c'est le verset 36. Quand l'arche partait, Moïse disait, vous y êtes. C'est 35. On va proclamer « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Et quand l'arche est posée, il disait « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. » Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse dans toute cette semaine. Soyez des gens fervents. Trouvez la manne. Soyez fortifiés. Amen. C'est le temps des annonces.